lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
La mode dans ce temps-ci, dans cette France éprise de commémoration, la France n'a peut-être pas le sens de l'histoire, mais elle a le sens du narcissisme historique. Et se complaît dans les récits de son passé. On a eu l'enterrement du dernier poilu, on a mai 568, et on aura, à la fin de l'année, figurez-vous, à la fois le 90e anniversaire de la victoire de 1918 et la naissance de la Ve République. Le livre dont je vais vous parler ne porte pas uniquement sur l'événement de mai 68, mais il les traite d'une manière tout à fait originale et particulière. Nous assistons actuellement à la sortie de nombreux livres et à en sortir beaucoup d'autres, de témoignages, de commentaires sur ces événements. Le livre dont je vais parler aborde cette période, mais parmi beaucoup d'autres. Et ce n'est pas un livre banal, c'est un livre d'un journaliste sur le général de Gaulle. Mais le journaliste s'appelle Jean Mauriac, fils de François. Accrédité auprès du général de Gaulle dès 1944 et qui le suivra en sa qualité de journaliste de l'AFP jusqu'à sa mort en 1970. Le livre est publié chez Fayard, Témoignages pour l'histoire, et ce sont des conversations avec Jean-Luc Barré. On va suivre donc la vie du général de Gaulle pendant cette longue période de 1944 à 1970. Sur mai 68, il y a quelques révélations de Jean Mauriac qui sont tout à fait frappantes. Notamment cet événement extraordinaire qu'a représenté le départ du général de Gaulle. Pour ceux qui ont vécu cette période, le général de Gaulle a disparu. Et pendant 24 heures, à la fin de mai 68, au maximum de l'agitation, on se demandait où il était. Y compris d'ailleurs Georges Pompidou, Premier ministre, qui reprochera durablement au général ce silence. On a appris très vite qu'il était en Allemagne, à Baden, et qu'il était reçu par le général Massue. Et là, vous avez dans ce livre un récit tout à fait étonnant des raisons pour lesquelles le général était parti. Le général de Boissieu, gendre du général de Gaulle et que Jean Mauriac détestait, il détestait beaucoup de monde, a affirmé que le général de Gaulle était allé en Allemagne pour s'assurer auprès du général Massue de la fidélité des armées françaises. Jean Mauriac nous démontre, avec d'autres témoignages à l'appui, que ce n'était pas du tout son objectif, qu'en réalité, le général a craqué, était lassé du pouvoir, lassé des Français, et envisageait tout bonnement de se retirer. Il avait ses bagages, son fils Philippe et sa famille l'ont rejoint. Et là, et nous avons des témoignages directs de Jean Mauriac rapportant les propos de Massue peu après et quelque temps plus tard, où Massue, qui ne se démonte pas, a remonté les bretelles du général de Gaulle, carrément, et lui a dit qu'il n'était pas question qu'un personnage de sa stature s'en aille, démissionne, soit découragé, et qu'il fallait qu'il rentre à Paris, et plus vite que ça. Et un général regonflé à bloc est reparti pour Paris. Et ça a été, un jour plus tard, cet extraordinaire mouvement de foule des partisans du général de Gaulle, qui étaient finalement beaucoup plus nombreux qu'on ne le croyait, et qui, de la Concorde à la place de l'Étoile, avec en tête Malraux, Mauriac, Michel Debré et Maurice Schumann, cette foule a acclamé le général de Gaulle. Et Jean Mauriac raconte un détail que lui seul pouvait connaître. En redescendant les Champs-Élysées, des foules se sont amassées sur les Champs-Élysées, là où on voit l'Élysée. Et on dit « De Gaulle, tu n'es pas seul ». Le général, qui était dans son bureau, fenêtre ouverte, on était à la fin mai, s'est, paraît-il, approché du balcon Seul son chef du service de presse était là. Il était avec Madame de Gaulle et un aide de camp qui était là dit à mon général, comme ça fait plaisir. Oh, si ça n'était que pour moi, a répondu le général. Et la phrase a été répétée dans la minute qui a suivi à Jean Mauriac, qui, bien entendu, traînait dans les couloirs après avoir accompagné son père à la manifestation. Le service de presse s'est fait sérieusement disputer. Qui a dit ça aux journalistes, etc., a dit le général de Gaulle. Mais c'est révélateur, il pensait évidemment à la France. Il y a d'autres pages où Jean Mauriac évoque non seulement mai 68, mais ce qui a suivi. Et notamment le départ de Georges Pompidou, qui a cédé le poste de Premier ministre à Maurice Couve de Murville. Et Georges Pompidou était très affecté par l'attitude du général de Gaulle, non seulement à propos de cette fuite sans qu'il l'ait prévenu en Allemagne, mais à propos d'une sombre affaire dite Markovitch, qui tendait à salir Georges Pompidou et son épouse, et où Pompidou a reproché au général de ne pas avoir coupé court à ces rumeurs. Si bien que le général a estimé devoir recevoir à dîner Georges Pompidou et son épouse à la fin de l'année. Jean Mauriac, bien entendu, était là. Et Mauriac a dit à Georges Pompidou, « Ça doit vous faire un drôle d'effet de vous retrouver ici. » Et Pompidou a répondu, « Oh, rassurez-vous, vous m'y retrouverez souvent. » Et Jean Mauriac considère que c'est à partir de ce moment-là que décidément, Georges Pompidou a choisi d'annoncer, il l'a fait quelque temps plus tard à Rome, sa candidature à la présidence au cas où le général partirait, ce qui s'est fait après l'échec du référendum de 1960. Je cite ces quelques éléments, car pour avoir bien connu Jean Mauriac, je peux vous garantir que l'homme est d'une exactitude, d'une froideur dans ses récits qui mérite qu'on le croit pratiquement sur parole. C'était en effet un journaliste, un grand professionnel, qui se trouvait dans une position très particulière comme accrédité auprès du général de Gaulle. Je parlais de la période de la traversée du désert, mais quand le général était au pouvoir, et notamment après 1958, Jean Mauriac, accrédité de l'AFP, était là pour transmettre ce qu'on lui demandait de transmettre à l'usage de l'opinion. Mais comme il était extrêmement fin, admirablement informé, très organisé, dans certains cas, il estimait devoir outrepasser la consigne et donner un éclairage, faire une confidence qui donnait à un événement, à un propos, à une déclaration, tout son sens, ce qui lui a valu parfois quelques difficultés avec l'entourage du général, mais en même temps, la confiance totale, et on peut même dire l'affection du général de Gaulle, qu'il avait pris, comme son frère Claude d'ailleurs, avec lui, dès l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1944. En effet, le général avait un nouvel aide-de-camp depuis que Burin-Desrosiers était retourné sous les armes. C'était Claude Guy, un grand officier de marine qui avait une belle gueule et qui a été longtemps l'aide-de-camp du général de Gaulle. C'était un ami de lycée de Claude Mauriac, qu'il a recruté au cabinet du général en 1944 pour s'occuper du courrier personnel du général de Gaulle. Et peu de temps après, le petit frère, car Jean Mauriac était le cadet de la famille, a été appelé comme correspondant de l'AFP. Et donc, nous avons là le témoignage de quelqu'un qui, pendant 30 ans ou 40 ans, n'a fait que son métier, avec les petits écarts dont je parlais tout à l'heure, et qui ensuite est apparu comme l'historiographe du général de Gaulle. Peu après la mort du général, il a d'ailleurs publié un livre déchirant, très sobre, très beau, qui s'appelle « Mort du général de Gaulle ». Il y a 2 ans, il a publié un livre « L'après de Gaulle », qui est un livre où il décrit de manière très nostalgique et assez sévère les infidélités au général après sa mort. Il passe en revue les principaux compagnons du général et montre que les soucis de la carrière, les avatars de la politique ont fait que tous ont plus ou moins oublié les enseignements du général. Et là, dans ce livre, le général et le journaliste, il se lâche complètement. En ce sens qu'il va parler non seulement du général de Gaulle, des à côté, des confidences qu'il a pu recevoir pendant cette longue période, mais de l'entourage, des gouvernements, de ce qui s'est passé. Et évidemment, et ça n'est pas le moindre intérêt de ce livre, il va aussi parler de François Mauriac et de sa famille. Là encore, avec ce souci de franchise qui le caractérise, il va dire sur la famille Mauriac des choses souvent assez cruelles, souvent pudiquement cachées, et au sujet desquelles, sans chercher le moindre éclat et le moindre scandale, il va dire ce qui est sa vérité. D'abord, ses relations très difficiles avec son frère Claude, qui ensuite deviendra un disciple de Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre, et qui s'éloignera beaucoup du gaullisme, sur ses sœurs. Et à propos de ses sœurs, je voudrais signaler la parution de deux livres d'une des sœurs de Jean Mauriac, qui est Luce Mauriac, qui avait épousé le général Leray, et qui publie en ce moment même deux livres, l'un qui s'appelle « Endormeuse saison » chez Ballant, qui est un roman, sans doute assez autobiographique, qu'elle avait conservé pendant 30 années sans jamais le publier, et qui a eu quelques critiques dans la presse. Elle publie un autre livre, Luce Mauriac Leray, qui s'appelle « Litanie pour Emmanuel », publié aux éditions Sable, qui est dédié à sa fille, qui est morte très jeune, d'un accident, sinon d'un suicide, qui paraît également ces jours-ci. Sur François Mauriac, Jean nous explique que Mauriac, tout entier dédié à son œuvre, était le contraire d'un père tendre. Il embrassait pratiquement jamais ses enfants, avait avec eux un rapport assez distant, et en même temps, sa personnalité, sa présence, son rayonnement ont évidemment profondément marqué tous ses enfants. Non seulement la présence de François Mauriac, mais celle des amis de Mauriac, André Gide, Georges Duhamel, Julien Green et tant d'autres. Donc ses enfants ont baigné dans la littérature. Et Mauriac leur a fait partager ses goûts sur la littérature classique, sur la littérature vivante, mais aussi sur la musique, sur Mozart. Moi, j'ai entendu un jour Jean Mauriac me parler de Carmen et de Mozart avec pratiquement la voix de son père. Et il y a en effet, dans différents textes de François Mauriac, des pages sublimes, notamment sur Mozart. Je me souviens, mais je la cite de mémoire, cette phrase: vous croyez entendre une musique du XVIIIe siècle, Haydn ou Jean-Chrétien Bach, et tout à coup, cette note en plein ciel, c'est Mozart. Il aborde également un sujet difficile, délicat, douloureux même, mais où il s'exprime très franchement, qu'on n'a jamais évoqué qu'à mot couvert, c'est l'homosexualité de François Mauriac. Non pas qu'il évoque en quoi que ce soit je ne sais quelle pratique homosexuelle, qui certainement a été complètement étrangère au comportement de François Mauriac. Mais son attrait pour les jeunes hommes, son goût de la beauté masculine et l'importance discrète, mais très forte, que cette tendance a eue dans l'œuvre romanesque de François Mauriac. À propos de romans, moi qui, personnellement, entre 14 et 18 ans, ai lu tous les romans de Mauriac, j'étais moi-même du Sud-Ouest, donc j'étais très attiré, il m'arrive de les relire, Génitrix me tire des larmes, Thérèse d'Esqueyrou aussi, Le nœud de vipère, mais je reconnais que c'est une littérature très belle, superbe, un style magnifique, mais c'est quand même un peu daté. Et le travail de la postérité étant ce qu'il est, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est surtout l'œuvre de mémorialiste, de commentateur, de journaliste politique de François Mauriac qui ressort le plus avec son bloc-notes dans le Figaro puis dans l'Express et à la table ronde. Et maintenant édité chez au Seuil, et Jean Touzeau, qui en est le grand spécialiste, a édité il y a 2-3 ans chez Bartilla, d'un bloc-notes à l'autre, qui est les pages délaissées qu'on n'avait pas retenues dans un premier temps. de François Mauriac, de ce bloc-notes, qui est vraiment sur la période des années 50 et 60, un témoignage absolument magistral. Voilà pour François Mauriac. Ce qui est également intéressant dans le livre de Jean Mauriac dont je parle, c'est l'étude qu'il fait des relations entre François Mauriac et le général de Gaulle. On sait que notamment à la fin de la Ve République, François Mauriac était le chantre du gaullisme et qu'il a défendu, souvent contre vents et marées, l'action du général de Gaulle. Mais les relations entre les deux hommes ont été très compliquées. J'ai eu la chance moi-même de rencontrer François Mauriac chez des amis dans les années 65, et il m'a parlé de sa première rencontre avec le général de Gaulle. Claude Mauriac travaillait auprès du général de Gaulle. Pendant la période de la Libération, François Mauriac était dans sa belle famille à Weimar, au-dessus de Roissy, et le général de Gaulle a demandé à Claude de lui faire rencontrer son père. Une voiture officielle est venue chercher François Mauriac, et je l'ai entendu me dire lui-même, j'avais, vous imaginez, des tas de choses à lui dire. Eh bien, vous ne me croirez pas, mais le général ne m'a parlé que de Gide. Il s'étonnait que Gide ne fût pas à l'Académie française. Donc on sentait François Mauriac extrêmement agacé du fait que le général de Gaulle ait vu en lui l'écrivain, l'académicien, et non pas le personnage qu'était François Mauriac. Ensuite, François Mauriac a pris très mal, a marqué beaucoup de distance par rapport à la création du Rassemblement du peuple français, le parti que le général de Gaulle a fondé en 1947, quand il s'est trouvé, par son fait, exclu du pouvoir. Et donc, pendant toute cette période de la IVe République, François Mauriac, qui était plutôt assez proche du MRP, qui ne se gênait pas d'ailleurs pour fustiger aussi souvent que possible, n'avait plus beaucoup de liens avec le général de Gaulle. Et c'est seulement la Ve République qui les a rapprochés, sans que, encore une fois, François Mauriac ait eu avec le général des relations très suivies. Ils étaient à peu près de la même génération, chacun d'une famille bourgeoise de province, Lille pour le général, Bordeaux pour François Mauriac, les mêmes valeurs, les mêmes convictions chrétiennes, les mêmes fidélités littéraires à Barrès, à Maurras, à d'autres écrivains. Ils ont fait chacun solitairement le tour de leur jardin, l'un à Colombey, l'autre à Malaga. Ils avaient le sens du devoir d'État, le même humour, ravageur, très dur, mais les mêmes convictions. Et puis c'était tous deux des amoureux de la langue française. Mais encore une fois, les relations ont été finalement assez espacées. Quand de Gaulle a quitté le pouvoir en 1946 et s'est retiré quelque temps à Marly, avant d'aller à Colombey, il a rencontré François Mauriac, mais d'après ce que dit Jean, le courant est mal passé. Quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, un de ses premiers soucis a été de faire de François Mauriac un grand croix de la Légion d'honneur. Et un de mes amis et de mes maîtres, Pierre Sudreau, qui était ministre à l'époque, m'a raconté lui-même ce que reprend Jean Mauriac, à savoir que le général de Gaulle, en Conseil des ministres, dit « Eh bien, nous allons donner la grande croix de la Légion au plus grand écrivain français vivant. » Et croisant le regard de Malraux, il dit « Enfin, l'un des plus grands !» Ce qui a beaucoup gêné Jean Mauriac, c'est que le bloc-notes dont je parlais tout à l'heure a été publié dans l'Express. Or, c'était l'Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui ne se gênait pas pour critiquer très fortement le général de Gaulle. Et à un moment donné, le général de Gaulle, étant devenu président de la République, fait un voyage dans le sud-ouest, Limoges, et il fait une halte à Langon, donc tout près de Malagarge. Et Mauriac, François Mauriac, a bien l'intention d'y aller. Et Jean Mauriac a supplié son père, qui se posait d'ailleurs des problèmes, de rendre public le fait qu'il quittait l'Express. Et Mauriac, après avoir hésité, a donné son accord et Jean Mauriac a pu envoyer une dépêche annonçant le départ de l'Express de François Mauriac. Ce que je voudrais dire encore, c'est, à propos du général de Gaulle, que Jean Mauriac nous en livre un portrait que je qualifierais presque d'intimiste. Il y a un mot célèbre d'André Malraux, mais peu connu. Chez de Gaulle, il n'y a pas de Charles. ce qui en dit beaucoup sur le fait que le général était son personnage public, et rien que cela. Et néanmoins, à travers ces pages, transparaît l'homme de Gaulle. Il y a un passage que j'ai trouvé un peu déchirant, à la fin de la traversée du désert, en 56 ou 57, Olivier Guichard, qui était à l'époque chef de cabinet du général de Gaulle, appelle Jean Mauriac au téléphone et lui dit « Vous n'auriez pas le nom de quelqu'un à me donner pour que je le fasse recevoir pour le général ? Il n'y a personne. » Et Jean Mauriac s'est débrouillé pour lui trouver un nom. Un des moments les plus intéressants de ce livre, c'est le récit d'un voyage d'une longue croisière que le général de Gaulle, je ne sais plus dans quelles conditions, a faite dans les années 56-57 dans le Pacifique. Pendant 3 semaines, 1 mois, le général de Gaulle et Madame de Gaulle ont fait un voyage dans le Pacifique, visitant la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, étant reçu un peu partout comme un personnage historique. Et François Jean Mauriac était du voyage, invité de temps en temps à la table du général. Et il raconte un certain nombre de choses assez amusantes, notamment un soir où il était invité à la table du général et où il s'absente quelques instants pour aller fumer une cigarette sur le pont. C'était la nuit, une nuit dans le Pacifique, avec un clair de lune formidable. Et Jean Mauriac n'y tient plus, va voir le général, lui dit « Mon général, venez, il y a un clair de lune, foutez-moi la paix avec votre lune », répond le général de Gaulle. Et un autre soir, Jean Mauriac se promenait à nouveau sur le pont et passait tout à fait par hasard devant la cabine du général de Gaulle et a vu à l'entrée de la cabine, le général de Gaulle en pyjama qui prenait l'air. Et Jean Mauriac dit « Je suis le seul journaliste au monde qui ait vu le général de Gaulle en pyjama ». Mais il y a comme ça toute une série de témoignages sur le général au quotidien, ses habitudes, les égards qu'il avait pour son entourage et en même temps sa sévérité. Et puis, il y a sur l'Algérie des passages qui sont tout à fait remarquables. Là encore, Jean Mauriac a suivi le général comme son ombre, y compris d'abord avant l'Algérie, en Afrique, quand le général de Gaulle a essayé de rendre populaire la communauté des pays émancipés. Et à un moment donné, il a pris Jean Mauriac à part et lui a dit textuellement « La communauté, c'est de la voutaise ». Ces gens vont à l'indépendance. Après être entrés dans la communauté, ils n'auront aucune idée en sortir. Mais que voulez-vous ? Il fallait le faire. Et puis sur l'Algérie, sur la tournée des popotes, en 1960, quand le général de Gaulle tenait aux militaires des propos tendant à affirmer le caractère durable de la présence française, alors que Jean Mauriac, fort lucide, savait très bien qu'on allait vers l'indépendance, il a exprimé son trouble devant le général de Gaulle, mais qui lui a dit « Que voulez-vous ? Il faut, dans un premier temps, donner confiance à ceux qui sont au combat. » Et à plusieurs reprises, Jean Mauriac laissera transparaître la possibilité de pourparler, ce qui lui vaudra quelques moments de tension avec l'entourage du général de Gaulle. Mais il préparera ainsi, d'une certaine manière, l'opinion. Et il conclut en disant que sur cette affaire de l'Algérie, c'est un chef-d'œuvre de stratégie politique. C'est sans doute un des moments les plus machiavéliens du général de Gaulle. Alors vous avez un témoignage, et c'est pourquoi j'y insiste, qui n'est pas celui d'un homme politique, soit partisan inconditionnel du général, soit opposant systématique, quelqu'un qui l'a vu de près, à titre professionnel, qui avait pour le général une profonde affection, c'était pour lui, au fond, un second père. Jean Mauriac a navigué, si j'ose dire, entre son père légitime et son père historique, François Mauriac, et le général de Gaulle. Et avec son talent, sa rigueur, sa précision, il donne un témoignage dont je n'hésite pas à dire qu'il est absolument unique. Et c'est pourquoi je voulais en entretenir nos amis de Canal Academy. Thank you.
Thank you.